font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
C'est Caroline Touzin dans la presse hier qui nous en parlait. Écoutez, c'est hallucinant ce que le docteur Claude Cyr, que vous allez entendre dans un instant, a découvert. Écoutez, des jeunes là entre 12 et 24 ans qui se retrouvent aux urgences, là, mais je vous le dis, littéralement sous mort. Sous, très, très sous. Puis dans certains cas, quasiment mort, ou en tout cas comateux, en état d'hypothermie. C'est incroyable. On va aller le rejoindre tout de suite. Claude Cyr, pédiatre aux soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Bonjour, docteur.
Bonjour, M. Drainville.
Moi, j'en reviens pas, là. J'en reviens pas, ce que vous avez trouvé, là. C'est à tous les deux jours, il y a un jeune qui se présente en état d'intoxication grave dans l'un des deux hôpitaux de Sherbrooke. C'est ce que votre étude a démontré. Et là, on parle de jeunes qui arrivent dans le coma avec des lésions à la tête, en état d'hypothermie. Ils sont tellement intoxiqués qu'il faut les intuber puis les mettre sous respirateur.
Mais oui, écoutez, quand vous disiez découvert tantôt, c'est pas qu'on a découvert, on les a plutôt dénombrés, parce que c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, les intoxications à l'alcool. Vous savez, l'alcool, c'est un problème qu'on peut décrire par les complications chroniques. L'Institut canadien sur l'information de la santé a publié en juin une grande étude sur le nombre d'hospitalisations liées aux problématiques chroniques à l'alcool, puis c'est effarant, là. C'est plus que 200 hospitalisations par année au Canada, par jour plutôt au Canada, chez les adultes. Chez les jeunes, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes boivent de moins en moins régulièrement ou quotidiennement. Mais un phénomène où au Canada et au Québec, on est parmi les champions du monde, c'est ce qu'on appelle les consommations excessives. Donc, qui est plus que 6 consommations lors d'une même soirée, plus que 12 fois par année. Vous voyez, chez les 15-19 ans au Canada, c'est à peu près 30% des jeunes qui consomment avec ce pattern de consommation-là. Donc, on en voit beaucoup à l'urgence. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment plongé dans les dossiers pour pas juste les dénombrer, mais les décrire. Et ce que vous avez nommé, donc les complications, c'est effectivement, nous aussi, on a été surpris de voir la fréquence de ces complications-là.
Comment vous expliquez, parce que là, à un moment donné, tu bois, tu es sur le party, mais là, te mettre à ce point sous que tu tombes dans le coma et puis que tu dois être intubé quand tu arrives à l'urgence, ce que ça m'envoie, moi, comme non scientifique, non expert, c'est que s'il n'est pas hospitalisé, il pourrait crever, là.
Ben oui, c'est-à-dire que c'est souvent des amis inquiets ou des passants qui retrouvent des jeunes sortis d'un bar, sortis d'une fête universitaire ou dans un party, dans un domicile, puis ils vont appeler les ambulanciers. La majorité arrive en ambulance, donc ça montre aussi la sévérité de ces intoxications-là. Et le pattern de consommation qu'on voyait le plus souvent, c'est vraiment quelqu'un qui est dans un party, prend quelques bières, prend peut-être du vin. À un moment donné, il y a soit une activité de calage, un beat de clock, des deux pour un sur des shooters, puis la personne en prend trop. Probablement parce qu'il est désinhibé par l'utilisation de l'alcool, il y a moins de jugement à cause de ça, et c'est ces alcools forts-là souvent qui vont mener à des altérations d'état de conscience, des vomissements importants, c'est vraiment cette relation-là avec l'alcool que nous, on pense qu'il faut discuter avec les jeunes. Donc, c'est pas cool se ramasser à l'urgence avec un tube d'un poumon, là, ou avoir une incontinence fécale ou faire une convulsion sur une intox à l'alcool.
Une incontinence fécale, qu'est-ce que
donc, c'est quand on défèque dans nos culottes, là, à peu près 5% des jeunes qui, comme complication, avaient des incontinences. Donc, vous imaginez que l'image du jeune cool qui fait le party, qui danse, qui est populaire, c'est complètement différent de celui qui urine dans ses culottes ou qui défèque dans ses culottes puis ou qui convulse. Donc, nous, c'était vraiment ce tableau-là inquiétant qu'on voulait décrire. Encore une fois, la fréquence à Sherbrooke est vraiment pas différente de la fréquence dans les autres hôpitaux. C'est juste que nous, on voulait les décrire et on veut que la ville de Sherbrooke, la communauté de Sherbrooke s'intéresse à ça pour qu'on prenne les bonnes décisions ensemble avec nos étudiants. Vous savez, à Sherbrooke, on a deux universités, on a trois cégeps, on a une ville étudiante très très dynamique. Puis on veut que les jeunes de notre communauté boivent sécuritairement. Donc, il y a beaucoup d'interventions qui sont déjà faites, mais on va essayer d'améliorer cet aspect-là.
Oui, d'intensifier ça. Quand vous parlez de jeunes qui se présentent à l'urgence, bon, coma, hypothermie, tout ça, lésions à la tête, c'est quoi? Mettons, tu t'es cogné sur un coin de table tellement tu étais sous, c'est ça?
Non, c'est-à-dire que nous, on a regardé toutes les consultations à l'urgence liées à l'alcool. Donc, effectivement, la majorité, vous l'avez décrit, c'est des comas éthyliques, donc c'est à peu près 70%. Mais il y a 23% qui venaient parce qu'il y avait eu un traumatisme. Donc, soit un accident d'auto, une chute, il y a 10% que c'était des bagarres. Donc, vous imaginez, vous recevez un coup de poing, vous avez l'arcade sourcilière qui est ouverte, mais il faut aller à l'urgence pour faire réparer ça. Donc, les blessures les plus fréquentes, c'était des blessures des tissus mous, où on avait besoin de faire des points ou des pansements, mais il y avait quand même 8% des patients qui avaient un trauma crânien significatif. Donc, effectivement, des chutes, des bagarres, des accidents d'auto. Vous savez, quand on est sous, on prend pas toujours les bonnes décisions, là. C'est un autre élément. Ça fait longtemps que c'est décrit dans les accidents d'auto, le lien entre l'alcool et les accidents d'auto, mais dans tous les types d'accidents, là, en vélo, même les piétons sous sont plus à risque de se faire frapper. Donc, c'est une complication liée à l'alcool qu'il faut essayer de prévenir.
Là, deux choses sur lesquelles je veux revenir. D'abord, quand vous dites là, ils finissent par perdre la carte, vous m'avez pas encore parlé de drogue. Ce que ça laisse entendre, c'est qu'ils perdent la carte sans même avoir mélangé avec de l'acide ou avec du pot ou peu importe, là, n'est-ce pas?
Donc, la majorité de ces jeunes-là avaient consommé de l'alcool seulement. Donc, 70% avaient pris surtout de l'alcool fort, donc soit un mélange, soit de l'alcool fort seul, plus souvent vodka, Jack Daniels, donc du whisky, tequila, des shooters surtout. 38% avaient pris un mélange. Donc, quand on regarde les polyintoxications, donc ceux qui avaient pris d'autres substances que l'alcool, c'est 29% seulement. Puis ceux-là avaient surtout pris du cannabis. Mais aussi, ce qu'on voit souvent, c'est la co-intoxication avec des drogues stimulantes, donc des amphétamines, de la cocaïne, de la caféine, pour essayer de contrebalancer l'effet endormant de l'alcool. Donc, ceux-là, souvent, ils venaient pour des bagarres. Ou pour des problèmes de comportement plus importants. Donc, c'est un autre mythe, là. Souvent, on pense que les jeunes qui se ramassent à l'urgence, c'est des gens qui mélangent d'autres drogues. Puis là, ben, on a la crise des opioïdes actuellement. Ouais. Heureusement pour les jeunes de notre communauté, c'était pas une problématique importante pour l'instant. Donc, on espère que ça ne deviendra pas.
OK. L'autre chose que vous avez dite dès le départ, vous avez dit, écoutez, la consommation sur l'ensemble de l'année, elle diminue, mais il y a comme des moments là, pendant l'année où il y a comme une poussée de consommation. Là, on parle de quoi, là? On parle, par exemple, autour des parties d'initiation, mettons, sur les campus. Là, vous avez plus de jeunes qui vont être hospitalisés sous mort autour de c'est ça, hein? Il y a des moments charnières pendant l'année où vous notez une augmentation de cette consommation excessive.
Donc, ce projet-là a été fait pour prévenir surtout. Donc, on a regardé quand le timing d'une campagne de prévention ou d'un message pourrait être le mieux. Donc, on a regardé les semaines dans les 5 dernières années où on avait le plus d'intoxication. Puis, on a séparé le groupe en 12-17 ans. Donc, on a 20% de nos jeunes qui étaient des adolescents. Et eux, c'est surtout la fin de l'année scolaire. Donc, les bals des finissants, les après-bals, la fête de la Saint-Jean. Donc, la dernière semaine de juin, première semaine de juillet. Puis, à Sherbrooke, on a la fête du lac qui est au mois de juillet, où on a 2 semaines de festivités, puis on a un autre pic à ce moment-là, chez les 12-17 ans. Mais ce qui est flagrant, c'est chez les jeunes adultes, donc les 18-24 ans, où effectivement, il y a une activité à l'année, là. Donc, on a des admissions à chaque semaine, mais il y a des pics dernière de août, première de septembre. Puis, effectivement, ce qui nous vient en tête spontanément, c'est la rentrée scolaire, le début de l'université, début du cégep. Mais la semaine la plus active dans nos urgences pour ce problème-là, c'est la fin de semaine autour de l'Halloween. Il y a plein de choses qui se passent à l'Halloween, il y a beaucoup de parties, on est déguisé, souvent ça nous désinhibe un peu, mais c'est aussi pour plusieurs endroits des semaines de mi-session. Ou de fin de mi-session. Donc, il y a souvent de parties à ce moment-là. Et on a plus que le double d'admissions dans la semaine autour de l'Halloween. C'est quelque chose qui est bien connu dans les campus universitaires canadiens-anglais, mais nous, c'est une des choses qu'on va essayer au moins analyser et prévenir.
Deux dernières questions. Est-ce que ça vous arrive d'en échapper?
Ben, écoutez, ceux qu'on échappe, c'est habituellement pas les comas éthyliques, c'est ceux qu'on n'amène pas à l'urgence. Donc, les cas les plus tristes, c'est effectivement, vous parliez des hypothermies, mais j'ai eu des cas dans les dernières années d'adolescents qui sont partis d'un party, puis qui leurs amis pensaient qu'ils s'en allaient à la maison, et ils vont s'endormir dans un banc de neige, puis on va les retrouver le lendemain matin. Donc, c'est malheureusement quelque chose qui arrive de temps en temps. Et les accidents. Donc, les accidents d'auto chez des jeunes adultes et des adolescents intoxiqués, malheureusement, on en voit encore, même si c'est à la baisse, là, ce qui est une bonne nouvelle. Puis la troisième portion de patients qui souvent ont des lésions plus importantes ou sont inquiétants, c'est que souvent l'alcool, c'est un des co-intoxicants pour les tentatives de suicide. Donc, une personne fragile, une personne qui veut s'enlever la vie, souvent va soit prendre des médicaments, soit faire un geste plus violent, mais va souvent pour s'engourdir ou pour se donner le courage, prendre de l'alcool avant. Ça, je vous dirais que c'est les cas les plus sévères qu'on voit. Heureusement, c'est une minorité dans les intoxications à l'alcool, mais c'est un autre élément inquiétant et un autre des méfaits de l'alcool.
Dernière. Oui. Le jeune qui a vécu un épisode comme celui-là, oui, qui se réveille, là, il est à l'hôpital, il regarde autour de lui, j'imagine, il y en a qui doivent se demander « qu'est-ce que je fais là? » Je comprends que ce n'est pas une étude scientifique là, que vous avez faite encore, là, mais au pif, là, est-ce que vous diriez qu'un jeune qui vit un épisode comme celui-là va apprendre de ça et va devenir plus sage pour la suite des choses?
C'est une excellente question. C'est une des voies d'amélioration que nous, on a suggéré, c'est-à-dire d'utiliser ces moments-là comme des occasions d'apprentissage. Je vous dirais que ça dépend beaucoup de l'attitude des gens autour. Vous l'avez bien dit, souvent, ils se souviennent même pas pourquoi ils sont à l'urgence quand ils se réveillent le lendemain matin. Ils se souviennent juste d'être sortis la veille, puis ils se ramassent aux soins intensifs. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'un coup qu'ils sont bien hydratés, ils ont plus d'éthanol dans le sang, ils ont absolument pas de conséquences ou ils se sentent juste comme en lendemain de veille. Donc, c'est la responsabilité des amis, de la famille et de la communauté médicale.
Et des parents,
Oui, hein? À refléter l'importance de cet événement-là sans juger, sans peut-être taper sur le clou, mais vraiment avoir une conversation sérieuse sur ces méfaits-là. Puis, voyez, nous, il y a à peu près 50% des jeunes dans cette étude-là qui avaient eu un counseling et un suivi offert. On sait que sur le moment, souvent, c'est peu efficace parce qu'on n'est souvent pas très accessible pour avoir une discussion parce qu'on a mal à la tête, on a mal au cœur, mais ce que nous, on suggère, c'est que 24-48 heures après, il y a soit un contact par texto, un contact avec une équipe clinique ou une discussion avec un coup de téléphone avec le jeune pour réfléchir sur sa consommation pour essayer de prévenir les intoxications futures.
Docteur Claude Cyr, pédiatre aux soins intensifs au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Vous faites œuvre utile. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un instant, les recettes Barrette.